Bienvenue au Polysécure, épisode sur les humains. Je suis accompagné de Benoît. Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci toi.
Très bien aussi. Aujourd'hui, on continue notre série qu'on je pense, on est rendu au septième épisode sur le sujet de un peu la neurodivergence et ces éléments-là. Cette fois-ci, puis c'est sur ton idée, on va aborder le côté innovation en entreprise principalement, sur lequel les neurodivergents apportent un angle intéressant, amènent des idées nouvelles, puis vont amener voir comment les entreprises réagissent plus ou moins bien, tout dépendant, à cette situation. Fait que je vais te laisser commencer avec le sujet.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était lors de notre... Parce que pour les auditeurs, on fait tout le temps comme une petite discussion après, Nicolas et moi. Là, puis dans cette discussion-là, je pense que c'était toi qui avais abordé la question de l'innovation. Puis j'ai comme fait, ah ouais, ce serait intéressant qu'on en parle ça la prochaine fois. Parce que, bon, moi, dans mon expérience... Ça a été un élément qui a été souvent autant stimulant que parfois problématique. D'autant plus que j'ai une méthodologie de fonctionnement qui est assez particulière avec mes collègues et même, je dirais même, mes étudiants là, pour beaucoup de choses. Dans le sens où moi, je vais utiliser les gens un peu bon gré, mal gré, comme des occasions de réfléchir à haute voix. Fait que je lance des idées, je regarde comment ils réagissent, c'est quoi les commentaires, puis là, je repars avec ça. Puis pas toujours de la façon, même tu sais involontairement, là, je me rends compte que c'est une mécanique que j'ai. Tu sais, beaucoup quand j'enseigne, je parle avec mes étudiants, je leur pose des questions, etc., puis je repars avec mon petit bagage, puis je remarche tout ça. Donc, c'est très, pour moi, c'est très organique la façon que ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des gens qui sentent, eux, que ça l'est moins, mais dans la plupart des cas, j'ai jamais eu de feedback négatif de ça. Là, fait. Mais tout ça étant, c'est que pour moi, ça, ces échanges-là amènent des questionnements, amènent des réflexions, amènent des éléments sur lesquels je dois dire, OK, bon, ben, je vais aller réfléchir là-dessus, puis je vais aller chercher de l'information là-dessus. Et puis là, finalement, je me retrouve un peu comme me retrouve souvent, pas toujours, mais souvent comme une espèce de catalyseur de nouvelles idées qui est un peu représentatif d'un peu ce que les gens pensent, parce qu'au final, je me nourris d'eux autres au départ. Puis après, je vais aller chercher l'information scientifique bien souvent pour dire, OK, bon, ça, c'est une bonne pratique ou ça ne l'est pas, tu sais. Pourquoi qu'il faudrait changer, etc. Donc, souvent, par mon fonctionnement naturel, je me retrouve comme étant une espèce de pusher de nouvelles idées dans une organisation et pusher dans le sens aussi que c'est pas nécessairement voulu. Là, tu te fais aborder par le pusher dans la rue, là, hey, il se passe quelque chose. Tu n'en as pas nécessairement besoin, puis tu n'as pas nécessairement envie non plus, mais je me retrouve quand même dans cette situation-là où je le fais. Avec l'impact que ça a, des fois, les organisations, tu es dans une situation où les gens comprennent c'est quoi ton dada, ton rôle, etc. Tu en as d'autres qui, par contre, vont peut-être être dans une situation où il y aura un malaise, où tu vas être perçu un peu comme l'emmerdeur, le fatigant qui arrive puis qui dit « Oui, mais avez-vous pensé à... » Puis là, ça fait en sorte que ça contribue nécessairement à t'identifier comme étant « OK, lui, c'est chier dans le jeu de quilles. C'est lui qui va venir déstabiliser la machine, déstabiliser un peu les modes de pensée à l'interne. » Ce qui est parfois utile, ce qui l'est parfois pas toujours, puis ça dépend aussi de l'organisation. Est-ce qu'elle est suffisamment mature pour le recevoir? Est-ce que elle veut le recevoir? Puis est-ce qu'elle est capable de faire de quoi avec ça? Ça aussi, là, c'est souvent un élément. C'est bien beau apporter les meilleures idées du monde. Puis là, tu arrives devant l'organisation, puis ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Tu sais, regarde.
Ouais, ben oui, et de ça, puis de mon expérience aussi, parce que plus jeune en carrière, je n'étais pas embauché pour ça. Maintenant, je suis embauché spécifiquement parce que j'ai cette qualité-là qui est recherchée dans certaines occurrences, pas dans tous. J'ai beaucoup bousculé de gens. Il y en a qui doivent s'en souvenir encore d'ailleurs. Comme tu mentionnais, le chien à jeu de quai, oui, j'emmerdais les gens parce que je leur faisais réfléchir en dehors de choses qui n'avaient pas pensé au préalable. Dans certains cas, j'ai eu des cas où j'ai malheureusement froissé des égos parce que ces gens-là pensaient qu'ils avaient tout pensé et j'arrive et je leur dis non, mais il y a quatre autres options que vous n'avez pas pensé qui seraient peut-être bien de bien cadrer ou de bien d'explorer, ou au moins juste de regarder pour s'assurer qu'on est à la bonne place. Et bon, de mon esprit très diffus, je vais voir beaucoup ça très rapidement, puis je vais être capable d'amalgamer. Puis je fais exactement comme toi. Moi, je lis pas des livres, mais je lis beaucoup d'informations sur des tracts de tout type, ce qui fait que ma pensée va dans tous les sens. Je vais arriver dans un projet technologique, là, je vais arriver à jouer, mais j'ai un texte en psycho, j'ai un texte en sociaux, puis je ramène avec un concept dans le développement, parce que c'est généralement ça, qui va ailleurs, et là c'est. Ça embête bien des gens, ce genre de façon-là.
Ouais, puis c'est ça, tu sais, est-ce que les gens vont le prendre, tu sais, comme tu dis, là, des fois, il y en a qui le prennent personnel parce qu'eux autres, ils ont l'impression, moi, j'ai fait le tour, tu sais. Là, t'arrives avec une vision qui est comme hors norme, puis qui amène un autre angle d'attaque que là, cette personne-là n'a pas nécessairement réfléchi. C'est pas, encore une fois, c'est pas une question. T'sais, en tout cas, moi, chemin que la manière je l'amène, j'ai pas l'impression de vouloir faire mal à personne. Je suis plus comme, ah, mais moi, je suis excité. Là. C'est comme un petit enfant là, qui est dans un magasin de jouets, là, t'sais, des nouvelles idées. Là. Oh yeah, mais ouais, on pourrait faire ça. Puis, ah, t'sais. Fait que, moi, je viens un peu hors de moi, t'sais, dans le sens où je suis comme, c'est le fun, t'sais, on ajoute. T'sais. Pour moi, le plaisir de la connaissance et le fait de pouvoir anticiper l'univers dans lequel on évolue. Pour moi, c'est hyper stimulant. Mais tu sais, il y en a que pour eux, tu sais, ça va être plus une indication que tu as mal fait ton travail ou que tu sais, alors que c'est pas ça du tout l'intention. Tu sais, puis souvent, ça amène aussi un peu une frustration dans le sens où t'es en train d'empêcher quelqu'un de shiner. Puis, tu sais, souvent, les gens dans les organisations, ils veulent à un moment donné essayer de se faire voir un peu en se disant, regarde, je suis capable d'avoir des bonnes idées, je suis capable d'être créatif, etc. Puis toi, t'es en mode, ah, mais là, je rajoute. Fait que tu arrives avec ta couche de Nutella supplémentaire, puis là, c'est super cool, tu sais, mais là, il y a quelqu'un qui arrivait avec sa tartine qui était beurre de peanut et confiture, puis là, ouais, ben là, ça a l'air moins intéressant, alors que c'est pas ça du tout l'intention, mais c'est là que parfois, là, ça va accrocher, surtout si vous êtes à l'intérieur d'une organisation, puis que vous devenez comme une espèce de, on va dire, de puits à idées, là. Là, ça va créer parfois là, certaines tensions là, qui peuvent naître parce que là, il y a des gens là, au sein de l'organisation qui disent « Ah, mais tu sais, de toute façon, peu importe, là, ça va aller dans ce « boîte-là », entre guillemets, là, parce que tu sais, à un moment donné, tu deviens comme une espèce de boîte à suggestions, puis là, tu ressors avec une nouvelle idée, puis tu sais, on ça sert à rien qu'on avance de quoi. » Alors que c'est en tout cas, moi, ma propre démarche, elle est basée sur le fait que justement, les gens avancent les choses. C'est, fait que, c'est comme ça que moi, je construis ma vision du monde.
Oui, ben brasser des idées, puis c'est sur ça. Puis ça, c'est pour revenir un peu sur les lectures que tu partages sur LinkedIn notamment, où moi, je lis plus des blogs et sur des choses diverses, mais qui revient sensiblement au même objectif, c'est de pouvoir prendre channeler toutes ces choses-là, puis en arriver à quelque chose. Puis j'aime beaucoup remixer des choses qui ne sont en aucun lien, normalement liées en apparence, mais peuvent être liées dans une façon que les gens n'ont pas vue. C'est un peu là où ma contribution se fait, mais j'ai pendant que tu parlais, j'ai eu un flash où j'ai deux personnes, il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont été froissées par des observations que j'avais faites sur des documents, des choses comme ça. Puis en leur disant, ouais, ben, t'as-tu pensé à regarder ces éléments-là? As-tu pensé à ces éléments-là? Puis un peu. Puis j'en ai même usé, je ne suis pas con à temps plein. T'sais, littéralement, ça l'a froissé à ce point-là, dans son ego. Mais en même temps, cet individu-là, il a un énorme ego et n'est pas capable d'ouvrir et d'accepter ce genre de choses-là. Fait qu'en même temps, C'est un double défi parce qu'il faut communiquer pour éviter de froisser, mais des fois, il y a des gens qui, naturellement, sont plus facilement froissables que d'autres aussi. Fait, naviguer là-dedans est quelque peu difficile, puis de faire émerger les bonnes choses, parce que l'objectif, en tout cas pour moi, c'est de faire prier l'organisation. Puis même en ce sens-là, même moi, je cherche pas à mettre de l'avant. Tu parlais de mettre de l'avant. Moi, je fais pas ça. Puis des fois, les gens ont l'impression que je les empêche de se mettre de l'avant. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire d'être de l'avant. Là. Je préfère être dans l'ombre de toute façon.
Là. Ouais. Puis tu parles de l'ego lié à des idées. T'sais, moi, je sais bien que moi, une idée pour moi, c'est comme un truc qui est externe à moi. Je le vois comme une espèce d'élément expérimental, là, un élément dans lequel je travaillerais dans un laboratoire, puis je suis en train de la décortiquer, de l'analyser, de la twister de tous les bords pour voir ce que je peux faire avec. Je fais en sorte que pour moi, une idée va être bonne tout aussi longtemps qu'elle n'aura pas de meilleure. Puis ben, c'est bien correct. Puis moi, j'ai pas aucune attache à cette idée-là, dans le sens où, regarde, là, ça fait l'affaire, puis quand ça ne fera plus l'affaire, ben, on en parlera de nouvelles. J'ai beaucoup. Le fait que je vais aller chercher de la littérature basée sur l'innovation avec des nouvelles recherches scientifiques, souvent va m'apporter un angle de vue qui va dire OK, ben, tu sais, ce que je pensais être vrai ne l'est peut-être pas tant que ça. Puis cette remise en question-là, pour moi, est importante et le faire me permet aussi de grandir comme individu dans lequel où je ne stagne pas. En mode, regarde, voici comment ma vision du monde, elle est échafaudée, puis ça va être ça, puis c'est tout. Non, tu parles des vues sociopolitiques du Benoît des années 2000, puis les vues sociopolitiques du Benoît d'aujourd'hui. Il y a un monde de différence parce que j'ai été puisé à gauche, à droite, j'ai été construit une autre vision avec des nouvelles informations, puis ben, tu sais, je suis capable de faire la part des choses. Je l'ai vu souvent ça dans le milieu universitaire, les gens qui sont échafaudés un schéma de pensée basé sur des idées, ils tiennent ça comme une espèce de dogme. Au niveau théorique, notamment, j'ai vu des gens, tu sais, que genre, ça, c'est la théorie qui existe, c'est la meilleure, ça, c'est moi. Mais tu sais, à un moment donné, là, théorie, tu sais, c'est un coffre à outils. Hein, ça se peut que ta théorie ne fonctionne pas partout, puis que des fois, ça vaut peut-être la peine d'en utiliser une autre parce qu'elle va t'expliquer peut-être le monde un peu plus intelligemment. Ouais, quand ça vient dogmatique, là, c'est un peu problématique.
Oui, puis j'aime bien la façon dont tu l'as présenté parce que, puis ça, en études, en psychologie notamment, on le voit, ne pas mélanger son ego, donc soi, avec l'idée qui est émergée. Fait que quand les deux viennent ensemble, puis comme tu le mentionnes, là, ça devient problématique parce que si l'idée, elle est bousculée, ben là, c'est l'ego qui est bousculé. Quand dans les faits, moi, mes idées sont en lien avec mon ego, mon être personnel est une chose. Les idées qui émergent de ça sont un autre. Puis des fois, puis même j'oublie, tu sais, à la rigueur, tu sais, j'écris des textes, puis j'oublie que j'avais pensé à ces idées-là. J'y relis plus tard, je dis, hey, c'est bien le fun ce que j'ai écrit là. Puis, mm-hmm. Tu sais, je suis comme heureux de me relire, puis j'avais littéralement oublié l'existence de ces idées parce que je me l'approprie pas. Elle est éphémère. Puis c'est d'ailleurs, ça donne certains problèmes parce que des fois que je parle avec des gens, puis là, j'ai des bonnes idées qui émergent. Je me dis, oui, peux-tu répéter? Ben moi, l'idée est partie. Ouais, elle a quitté mon être. Je ne serais pas capable de te le répéter parce que j'en ai pas la possession. J'ai formulé en temps réel quelque chose, puis ça s'est évaporé aussi vite que je l'ai dit. Puis une fois que je l'ai dit, c'est fini. J'ai énormément discuté à redire ce que j'ai dit parce que là, il faut juste un effort, puis je ne serais jamais capable de leur dire peut-être la belle façon que je l'ai faite la première fois parce que ça s'est envolé. C'est et pas à moi. C'est, ça part. Les paroles s'envolent.
Ça ouais. Part pour toujours. Puis ça, c'est 100%. Je te comprends vraiment parce que je suis dans la même dynamique. Souvent, tu sais, il y a comme une espèce de. Tu sais, ceux qui vont faire de l'écriture automatique ou de la peinture automatiste ou des choses comme ça, tu sais, il y a comme un état dans lequel tu tombes, là, où tu te mets à penser à haute voix, puis là, à souligner les affaires, puis à un moment donné, il y a des choses que ça fait bien du sens, puis là, tu vas sortir. Mais moi, je suis comme dans un état second dans ce cas-là, là, qui font en sorte que je suis pas, je réfléchis pas à ce que je dis. C'est juste comme le cerveau qui est capable d'aller lui-même dire des choses. Puis là, OK, ouais, j'ai dit, ah, ça faisait du sens, OK. Mais, tu sais, le remarcher de la manière que je viens de le faire, je serais peut-être pas capable.
Oui, c'est ça, c'est composé en temps réel et après, ben, j'ai, comme ça rentre jamais dans mes mémoires, comme c'est pas une mémoire que j'exprime, c'est vraiment une composition au sens pur, ben, cette composition-là, elle devient unique et donc elle disparaît de mon esprit aussi vite parce qu'elle n'est pas dans ma mémoire. Et vraiment, j'ai juste crunché sur ma mémoire et c'est ça que ça a sorti au moment X, basé sur mes connaissances. Puis c'est aussi, ça ramène le fait que on évolue, puis moi aussi, j'ai dans le même schéma où le moi d'il y a 20 ans n'est pas le moi de maintenant. Mes opinions, que peu importe le domaine, ont changé. Mes connaissances ont changé. Mm-hmm. Est-ce que je suis capable d'analyser? Fait que je serais pas capable de faire le même genre d'analyse en temps réel comme je fais maintenant, que je faisais il y a 10, 15 ou 20 ans. Ça ne donnerait pas les mêmes résultats parce que le contenu absorbé, mes grilles d'analyse ont évolué, les choses, tout a continué à évoluer. Fait que ce qui fait que je suis capable de propulser des idées nouvelles et justement d'innover constamment. Puis moi aussi, des fois, je me prends même par surprise parce que des fois, je compose des affaires comme ça ou j'essaie d'écrire en même temps ou de l'enregistrer. Maintenant, quand j'ai pris l'habitude, j'ai eu une bonne idée et je l'écris tout de suite parce que sinon, elle est perdue pour toujours et je ne serais jamais capable de la retrouver comme elle l'était à ce moment-là. Donc, mais ça évolue parce que puis c'est bien comme ça aussi. Là. Je lisais des textes que des fois je relis de mes textes que je vois c'est bien bon. Des fois je relis de mes textes, je fais comme pas tant bon que ça. Là.
Ouais, exact. Puis tu parles justement quand on discute de l'innovation, d'échafauder des nouvelles idées en fonction des connaissances qu'on va chercher. Moi, là, au final, c'est quoi? Mettons, 4 sciences que j'explore. Là, c'est-à-dire que j'ai été en économie, j'ai été en sciences politiques, relations internationales, en criminologie, et puis là, je suis en sciences du management. Donc, ça fait 4 sciences que j'explore. Autour de ça, je me suis amusé à aller explorer d'autres choses. Je suis un gros friand de lecture sur la physique quantique. Ce qui m'amène à avoir une espèce d'approche à ce que Edgar Morin appelait la vraie science, là, en guillemets. Là. Edgar Morin, dans son livre Introduction à la complexité, lui, ce qu'il disait, grosso modo, c'est la science va se trouver aux jonctions entre les sciences. C'est-à-dire que les gens, les gens qui sont en mode je suis un spécialiste, échappent un paquet d'affaires qui pourraient les aider à avancer dans leur propre cheminement, mais qui se trouvent dans d'autres sciences puis qui sont concomitantes. Fait que lui, c'est comme un peu l'histoire de la passoire. C'est-à-dire que si tu bloques pas les trous qui se trouvent autour de d'où tu te situes, ben, t'échappes plein d'affaires. Fait que, dans le fond, Edgar Morin, c'est important d'aller explorer autour. Pas juste devenir un hyper spécialiste. C'est, dans le fond, l'innovation est là. C'est d'être capable d'aller fusionner des choses puis d'aller chercher des éléments d'innovation qui se trouvent ailleurs.
Oui, absolument. Puis c'est pour ça que ça revient que les gens qui font beaucoup plus d'innovation, on prend nos exemples personnels, c'est ça, c'est plus facile. Justement parce qu'on explore comme ça, mais dans mon entourage, c'est aussi des gens qui ont des parcours de cette nature-là, qui sont curieux de plusieurs choses, qui regardent tout, qui font des liens entre différents types de sciences ou de connaissances ou de choses comme ça. Puis, des fois, les grandes avancées en sciences même sont souvent la conjoncture de deux sciences ensemble. Quelqu'un qui était spécialiste qui était connaissant dans les deux a réussi à ramener le meilleur des deux pour innover une nouvelle science, des fois, ou réussir à améliorer l'état de l'art dans une des sciences pour justement explorer davantage de choses. Pour moi, c'est fondamental, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Puis je comprends aussi la vaste majorité des gens. C'est pas leur dada, là, puis c'est bien correct. Là, tu m'amènes dans une, dans une exposition sur les principes de physique quantique, puis sur la découverte des premiers êtres humains, puis les approches en anthropologie, je vais triper, là, tu sais, je vais être surexcité, mais tu sais, la vaste majorité des gens, c'est comment, ben, tu sais, c'est cool, c'est une exposition, puis je vais apprendre 2-3 trucs, puis ça va être ça, là. Tu sais, l'approche n'est pas la même, tu sais, de fait, justement, parce que on a des cerveaux qui se nourrissent à l'innovation, là. Fait qu'on a des cerveaux qui se nourrissent, en fait, à la nouveauté, ce qui engendre cette innovation-là. Fait que nécessairement, tu sais, comme on est tout le temps en train de puiser quelque chose dans le nouveau, ben rapidement, tu sais, on veut essayer d'aller chercher ces nouvelles connaissances-là pour apporter une nouvelle vision du monde, puis la ramasser tout le temps, puis être capable de finalement faire grandir les gens autour de nous. Bon, au final, tu sais, je peux jamais pointer une fois où j'ai utilisé des idées dans le sens de OK, ben, je vais te démolir. Pour moi, encore une fois, l'idée, c'est quelque chose qui vit d'elle-même. Fait que c'est juste, hey, ça, t'as-tu vu que ça existe? C'est un peu le même principe que l'explorateur. T'sais. Hey, regarde, il y a de la terre là-bas. Hey, regarde, là, c'est un gros lac. T'sais. Fait que c'est un peu la logique dans laquelle je fonctionne. Puis ben, on retourne au niveau organisationnel. C'est pas toujours pas évident de mettre ça en place. Pas évident de faire fonctionner ça puis de faire vivre ça. Puis surtout dans une logique où on est très axé sur la ROI. C'est quoi la ROI de ça? Là? C'est pas évident à justifier, mettons. Là.
Ouais, c'est pas tout le monde qui voit la valeur qui est apportée par ça. En plus des gens qui leur ego est un peu plus fragile que les autres et justement qui vont se retrouver être froissés par ces éléments-là. Mais je regarde, je reviens là au moment où on enregistre. Je reviens d'un 10 jours dans un pays assez lointain avec des cultures et une langue, des choses qui sont excessivement différentes de la mienne. Et à quel même l'anglais est une langue qui est accessoire pour eux autres. Donc, ça devient d'autant plus difficile de réussir à établir une communication avec ces gens-là. C'est très particulier, puis c'est un moment qui me met dans l'humilité, naturellement, parce que là, je dois être dans un contexte où c'est moi l'étranger dans un autre pays et d'être capable de regarder autour de moi et d'absorber. Puis on parle d'absorption, mais là, j'ai appris énormément de choses à l'intérieur de ce que j'étais capable d'absorber, parce que c'était très, très dense comme voyage en termes de contenu. On en a parlé un peu dans l'épisode sur les voyages. Et il y a énormément de contenu qui est rentré. Cela va alimenter tout et vient de changer mon regard aux choses. En même temps, je me suis placé dans une position d'humilité. Puis c'est ça qui est difficile aussi pour la plupart des gens, parce qu'on a Là, je reviens un peu sur les choses de voyage, mais on a un peu le stéréotype des Américains qui voyagent puis qui sont très arrogants, que le monde doit tourner autour d'eux autres. Donc, pas être capable de se mettre dans une position qui est capable d'écouter de ce qui se passe. Et pour faire un clin d'œil aussi aux Français, j'ai vu des Français dans ce voyage-là qui ont agi comme des Américains, qui ont présumé que les gens allaient comprendre le français puis qu'ils les ont comme bousculés. Là, je fais comme, ben, de casser tes autres pays où ils ne parlent pas ta langue. S'il vous plaît, fais un effort pour essayer d'établir le lien de communication. Puis là, il émerge ça, mais toute cette connaissance-là, bref, pour fermer puis revenir sur l'innovation, m'amène ailleurs, m'amène dans un contexte. Puis là, c'est sûr que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va transcender ce que j'ai fait. Toutes les nouvelles connaissances vont transcender dans ce que j'ai fait. Donc, j'ai changé de point de vue, j'ai avancé, je suis allé ailleurs et ça permet ce genre de choses-là. Fait que les gens avec qui je vais côtoyer, qui manque un peu d'humilité d'ailleurs, vont être un peu bousculés de façon nouvelle parce que j'ai apporté des nouveaux axes. Puis c'est un peu un problème ce que les autres perçoivent de moi, c'est que je suis jamais à la même place parce que j'ai continué à avancer. Fait qu'ils pensent qu'ils sont capables de prévoir ou anticiper. Mais la réalité, c'est non, je ne suis pas anticipable de cette façon-là parce que mon regard innovation continue à évoluer avec l'état de ma connaissance, quoi je m'abreuve et de quoi je vois, puis même dans mes voyages, je continue encore à avancer. Fait que j'arrive avec plein de nouvelles idées, plein de nouvelles façons, plein de choses très, très, très différentes qui vont enrichir ce qu'on appelle l'innovation. Là.
Ouais. Toi, là, ça fait quand même un petit bout là, que tu n'as pas été dans une organisation, right?
Ben, je suis à mon compte depuis déjà un bon bout de temps. Donc, je suis embauché comme un mercenaire, si on veut. Mm-hmm. Un mercenaire d'innovation, si on peut le voir ouais, comme ça. Ça. Fait que finalement, on vient me chercher pour des mandats comme ça, des interventions qui sont pas nécessairement à temps plein, plus ponctuelles, justement, pour faire valoir ça. Mais c'est nouveau pour moi dans ma carrière. Disons, depuis, ça fait à peu près 5 ans. On vient me chercher spécifiquement pour mon KPT, ce qu'on appelle disruptive en anglais, là, de défaire un peu puis amener de l'innovation davantage. Fait que c'est nouveau, mais j'aime ça.
Puis comment tu attaques la chose? Parce que moi, je sais bien que je l'ai vécu beaucoup plus par l'interne, là, c'est-à-dire que j'étais comme de facto le catalyseur d'innovation à l'interne. Mais toi, quand tu arrives de l'externe, tu sais. Comment tu vas l'aborder? Parce que moi, de l'interne, bon, c'est sûr que ça crée toutes sortes de frustrations puis même de tensions à l'interne. Fait que, tu sais, faut que je fasse, faut que j'ai quand même faut que je dose, faut que je fasse relativement attention à la manière que c'est apporté. Tu sais, je veux pas, c'est comme un élément très politique là, quand tu rentres dans les organisations. Tu sais, fait que toi, d'un point de vue, tu sais, quand tu arrives de l'externe, est-ce que tu sens que tu as les mêmes. Les éléments qui sont là? Ou...
J'ai pas tout à fait les mêmes éléments parce que je n'ai pas. Puis la façon que j'agis aussi ne laisse pas penser que j'essaie de capitaliser ou de me faire valoir parce que mon mandat est jamais déterminé dans des périodes. Donc à ce moment-là, où j'ai des missions très définies ou différents éléments. Donc on m'utilise sur certains dossiers, pas tous. Donc j'ai pas. Je ne suis pas transversal à l'organisation. Donc, déjà là, je brusque moins les gens fondamentalement parce que je ne touche pas à tous les dossiers. Cependant, on vient me chercher pour des besoins spécifiques. Fait que dans ce cas-là, je vais comme les dépanner sur un élément qui est donné. Plus j'avance, plus ça devient comme ça aussi. Plus on m'utilise dans cette perspective-là. Et on est toujours dans des contextes de règles d'engagement. C'est-à-dire que mon client, généralement, le gestionnaire qui m'embauche, ben, me définit mon carré de sable. Et de là, c'est plus facile là, de pas être une menace pour les autres, parce que c'est un peu comme ça que tu l'expliques. Tu deviens comme une menace pour les autres parce qu'ils se sentent vulnérables ou ils sentent qu'ils n'auront pas l'entièreté ou bon, ça va aller les jeux. Je suis moins dans cette zone-là parce que je suis pas un employé. Je suis juste là pour amener ce genre de choses-là. Puis je fais des travaux qui sont généralement maintenant de moins en moins en longueur. Parce que, puis un peu, ça me tanne aussi d'être en longueur. Je fais plus des interventions courtes, c'est-à-dire que ça. Puis même à l'intérieur d'un mandat qui, même si contractuellement, va dû être multi-année, c'est des interventions ponctuelles sur des petits dossiers sur lesquels je vais produire une note d'opinion sur un sujet, puis je vais avancer comme ça. Fait que c'est beaucoup plus facile d'éviter les conflits, mais c'est encore présent parce que les cas où j'ai mentionné que qui m'a dit qu'il n'était pas con à temps plein. C'est arrivé dans un cas assez récent. Puis malheureusement, j'ai juste pointé des choses qu'il avait oublié de regarder dans son analyse. Ouais, peux-tu regarder ces affaires-là? Parce que je pense que ça va favoriser l'adoption du dossier parce que bon, il y avait une logique en dessous qui n'était pas pour, comme tu dis, pas pour le détruire, mais c'était fait pour que le dossier aille mieux. C'est toujours dans une perspective, tu sais, je travaille toujours dans cette perspective-là. Bon, ça dépend toujours de la personne vis-à-vis. C'est la personne-là qui s'est trouvée un peu froissée. Elle avait un ego surdimensionné en pensant qu'elle avait tout vu par elle-même. Puis ça, c'est de la folie de penser qu'on voit tout par juste de ça. Puis moi, ça fait plus longtemps que je me suis rendu compte que mon regard est très étroit et il devient très focusé quand que j'ai à intervenir. Là, je peux passer mon laser un peu partout, mais il demeure que mon intervention est quand même plus étroite. Donc, mon regard, je sais où sont mes limites. Puis, je sais que ça me prend du temps, ça va me prendre un peu de méditation, de course ou avant d'arriver à un regard complet et que ça allait brasser dans ma tête suffisamment longtemps. Comme un bon vin, finalement, il faut que ça allait mûrir un peu avant d'être capable d'avoir... une intervention. Fait que c'est rare qu'à chaud, mais même encore là, je disais à chaud, je lançais des affaires comme ça parce que je suis capable de catalyser tout ce qui est présent aussi.
Ouais. Puis tu sais, pas la. Tu sais, moi, un des éléments sur lesquels je plonge beaucoup, c'est ma capacité de lire l'environnement autant interne qu'externe rapidement. Fait que pour moi, ça, c'est non seulement rapidement, mais aussi en continu, là, je suis capable de lire. T'sais. Fait que ça, cet élément-là, quand on parle d'innovation, vient m'aider beaucoup parce que tu es capable de voir, OK, bon, c'est quoi les forces et faiblesses sur lesquelles on pourrait plancher. Puis, ce qui est curieux, c'est que souvent, moi, ça va avoir accroché avec des gens qui n'auront jamais même lu leur environnement. Fait que t'as des gens qui vont dire, ah, ben oui, mais c'est là, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. Pourquoi? Puis là,
ça revient souvent à ça, au pourquoi. Puis moi, c'est la première question que je me pose. C'est quand je regarde un système, puis là, je l'ai fait parce que je suis dans un pays étranger. Fait que j'en ai une expérience pendant 10 jours de vraiment juste ça. Regarder pourquoi le système n'est pas comme je suis habitué. Regarder le système, comprendre la logique qui est en arrière. Puis quand je ne comprends pas, ben je pose la question, mais pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'il y a toujours une raison pourquoi c'est fait comme ça. Même si ce n'est pas optimal, même si dans ma tête, ça ne marche pas, puis je ne suis pas capable de rattacher les fils, mais je vais chercher cette raison-là. J'essaie de ne pas être agressant, ça, mais parce que tu le mentionnes bien. Des fois, quand tu poses le pourquoi, quand c'est mal formulé, les gens vont sentir attaqués. Quand dans les faits, ce n'est pas une remise en question, mais c'est vraiment de comprendre la situation, le contexte dans lequel on est. Parce qu'à partir de là, tu es capable d'innover de façon réel et qui apporte de la valeur, au lieu de juste bousculer des choses pour les bousculer. Puis dans mon plus jeune temps, c'était plus ça. Je bousculais pour bousculer, là, je bouscule pour apporter de la valeur. Fait que ça l'amène aussi, c'est un changement de paradigme aussi. Puis j'imagine c'est un peu les cheveux blancs un peu ont amené cet axe-là, puis de comprendre aussi à un moment donné que le plaisir, c'est pas juste de bousculer, le plaisir, c'est que ça amène de la valeur, que ça continue, puis que les gens grandissent. Puis l'effort. Une des choses que je travaille, là, lire l'environnement, je le fais aussi, mais c'est d'aider les gens à grandir dans l'expérience. Aider les gens à aller plus loin, puis les amener, puis de ça. De mon rôle de consultant, je suis beaucoup plus dans cette perspective-là où je dois transférer ma connaissance à des gens de l'organisation pour qu'ils le reprennent et qu'on puisse continuer à le faire avancer après. Ça, c'est pas nécessairement facile parce que l'innovation, ça ne s'enseigne pas.
Non.
Et c'est très difficile. Comme lire son environnement, ça ne s'enseigne pas. Comme réfléchir en système, semblerait que ça s'enseigne, mais ce n'est pas nécessairement évident l'expliquer aux gens. J'ai été confronté justement à ça pour réfléchir en système, ou les couches d'abstraction aussi, qui est une autre notion qui est très propre à notre domaine, notamment, dans lequel j'ai enseigné à des étudiants de maîtrise. Puis j'ai présumé qu'il y avait ces notions-là de réfléchir en système puis réfléchir en couche d'abstraction. Puis clairement, c'est une notion qui est acquise et non innée. Donc, j'ai dû, mais tu voyais un peu dans leurs yeux, un peu le regard un peu perdu du chevreuil devant les phares, puis ils ne comprenaient pas, même avec des explications puis tout. C'est loin d'être inné, donc c'est plus difficile. Donc, l'innovation aussi, à mon sens, tu es capable d'éveiller des choses qui existent, mais c'est difficile d'amener des choses qui n'existent pas chez ces personnes-là. Et encore, on revient, je répète, c'est pas, vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas une mauvaise personne. On a des profils différents. Chaque chose est utile. Et c'est juste que des fois, il ne faut pas chercher dans les zones dans lesquelles on n'est pas bon. Puis je ne suis pas bon dans plusieurs zones, notamment. J'étais un très bon sprinter.
Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, moi, je sais que, par exemple, souvent, on. J'ai eu toutes sortes de surnoms là, durant ma carrière. Il y en a plusieurs qui m'ont appelé longtemps le Dr. House. Là, c'est-à-dire que, en plus, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus abrasif. Donc, j'avais un peu cette réputation-là de être cynique, être cinglant, puis mais arrivé, puis chut, le gars, il a raison. Là, fait que ça a été longtemps mon surnom, mais c'est aussi beaucoup souvent on appelle le prof ou le théoricien, ou c'est-à-dire que je vis dans une zone qui n'est pas nécessairement très opérationnelle, on va dire ça comme ça. Puis c'est un problème, pour moi, c'est-à-dire que moi, il faut que je fasse un effort d'aller dans le niveau opérationnel, tandis que, comme tu dis, tu m'amènes dans le niveau d'abstraction qui va être l'endroit où on va être capable de générer l'innovation. Ben, tu sais, pour moi, c'est du naturel, ça. Mais pas parce que c'est naturel que c'est toujours utile, effectivement. Est-ce qu'on va arriver dans des situations où là, il faut gérer une opération? Je vais quand même le faire, mais je ne serais pas nécessairement, un, dans ma zone de confort. Deux, tu sais, je n'aurais pas nécessairement de fun. Puis trois, je serais probablement pas le meilleur. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut juste savoir bien s'entourer et être capable de savoir où on va apporter de la valeur pour l'organisation.
Oui, absolument. Puis c'est très intéressant parce que, puis j'aime ça, Dr. House, j'ai été surnommé de plusieurs façons aussi. Là. J'ai un peu, de façon un peu moins élégante que ça, fait que je vais taire ces choses-là. Mais j'ai dérangé des gens, tu sais, à maintes reprises parce que quand on me met sur un dossier, c'est sûr que je vais m'arranger qu'il fonctionne le plus vite possible, le mieux possible. Et dans certaines organisations, ça l'a froissé des gens parce que eux n'avaient pas le même approche que la mienne, donc était moins axé sur les résultats dans ce contexte-là. Donc, il était plus dans un contexte méditatif pour prendre la bonne décision, quand lequel moi, ben, on me dit, ben, t'as un vélo, va le plus vite possible. Et j'ai embarqué sur mon vélo, puis je partais à toute vitesse. Ça l'a un peu froissé les gens qui étaient là, puis ça les a, malheureusement, puis c'était pas l'objectif, parce que puis eux-mêmes luttaient contre le support que je peux leur donner, puis c'est ça qui est arrivé, puis c'est devenu une décision de gestion. Un gestionnaire qui faisait ça, ben là, il s'est choqué que l'équipe qui était en place ne le livrait pas dans les délais et qu'ils m'ont mis sur le dossier. Bon, à ce moment-là, c'est quand tu parlais de comment ça s'est géré les organisations, mais des fois, les gestionnaires qui me mettent sur les dossiers, puis je les avertis, là, je sais, parce que de mon expérience, je sais quand ça va créer le chaos quand je vais intervenir. Les résultats pour l'organisation vont être là, mais les résultats ne sont pas là de façon humaine. Donc là, il faut faire attention. Puis je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avertissements maintenant. Je dis ça, si on va ce chemin-là, ben les gens vont être pas très heureux parce que j'amène un regard différent. Je bouscule des fois des années, des dizaines d'années de façon de faire qui sont plus appropriées. Qui ont le besoin d'être modernisés. Donc, on est un peu dans ce contexte-là. Mais autant que je peux, j'essaie d'éviter de soulever des émotions. Mais des fois, selon l'émission que j'ai, on me demande de soulever des émotions. Puis dans ce temps-là, ben, je soulève les dites émotions. Mais j'aime pas, c'est pas une zone de très grand confort quand il y a de l'émotion qui est générée. Ouais. J'aime pas beaucoup ça. Là. Je m'en éloigne beaucoup. Là.
Ouais. Ouais, puis encore une fois, ça aussi, tu sais, c'est correct, tu sais. Je veux dire, il y a des gens qui. Tu sais, que moi, à un moment donné, j'ai eu certaines tensions dans un emploi précédent, puis je dis, ça, c'est un job pour un psychologue industriel, là, tu sais. Je connais mes limites, là. C'est vrai que ça, c'était clairement pas un truc qui aurait dû être réglé par des. Je veux dire, pas péjorativement, là. Simple gestionnaire. Là, c'est-à-dire que ça aurait pris une couche de quelqu'un qui a une approche autre que l'approche de gestion standard. Un des éléments aussi par rapport à l'innovation que j'ai trouvé difficile, c'est la réalité, c'est que pour être capable d'en apporter comme on veut le faire, il faut souvent être dans une organisation d'une taille assez importante parce que, tu sais, encore une fois, le ROI n'est pas nécessairement là tout de suite. Puis, tu sais, que les gens fassent confiance en disant, regarde, tu vas l'idée de ce département-là, tu vas être capable de. Tu sais, ça peut. Ça prend quand même une taille assez grosse. De l'autre côté, c'est que la mise en place des idées qui en émergent dans des entreprises qui sont assez grosses prend du temps. Ça, c'est difficile, ça va faire bouger, puis là, tu perds en agilité. Fait que t'es pris dans cette dynamique-là où, si je veux être capable d'en faire, il faut que je sois dans un système qui ne me permettra pas d'en faire ou qui va ralentir ta capacité à en faire, on va dire ça. Fait que là, tu vas faire beaucoup plus de travail au niveau politique pour t'attacher aux bonnes personnes qui vont être capables de faire avancer du système de manière assez véloce pour avoir l'impression d'avancer. Mais encore là, tu sais, tout ça va devenir extrêmement complexe assez rapidement là, dans une organisation qui va être d'une taille assez significative, là, on va dire ça comme ça. Fait que c'est un peu un catch-22, là, où tu peux être semi-heureux d'un côté ou tu veux être semi-heureux de l'autre. C'est-à-dire que tu vas arriver dans une petite organisation, tu n'auras probablement pas les moyens de, d'en faire tant que ça, tu sais, puis d'être dans ce mode de réflexion-là. Ce que tu vas pouvoir amener, par contre, ben, tu sais, ça risque de rentrer assez vite si ça passe, tu sais, fait que puis tu vas voir les résultats, tu vas voir les fruits de ce que tu vas ramener. Tandis que, tu sais, dans des grosses organisations, tu vas peut-être plancher sur des affaires, puis, tu sais, ça va dormir pendant des années, puis ça va se mettre en place quand t'es plus là, là.
Oui, absolument d'accord. Puis j'ai des expériences en ce sens qui confirment un peu ces éléments-là. J'avais une organisation dans laquelle j'avais fait beaucoup d'innovations, j'avais fait avancer les choses énormément rapidement. Malgré la résistance d'un certain nombre de personnes, puis en plus, à un moment donné, je me suis retiré de cette organisation-là, de justement l'innovation où ce qui était me demandé d'innover était terminé. Et en l'espace de, je pense, 2 ans, il était revenu à 80% de ce qu'il était avant. Donc, fait que j'ai eu le plaisir d'innovation pendant que j'étais là. Cependant, l'organisation n'a pas été capable d'absorber 100% de l'innovation que j'ai apportée, n'a abordé, n'a absorbé que 20% de l'innovation. Ça, je peux mettre en retour d'expérience, c'est on était trop vite, on n'avait pas de gens de gestion de changement qui accompagnaient. Donc, les changements n'ont pas été correctement véhiculer aux personnes et que les changements là, ont eu lieu sur leur vie. Donc, dès lors, on n'a pas été capable de leur permettre d'absorber au moins 80% du changement. Puis, bon, s'il y a 20% qui n'est pas absorbé, c'est pas si grave. Mais là, c'est vraiment 80% du changement qui n'a pas été absorbé. Donc, c'est un peu une perte sèche pour l'organisation, malheureusement, parce qu'ils sont comme retournés un peu en arrière, puis ils recommencent à avancer avec ces choses-là. Moi, j'ai appris là-dessus que même si on me demande, je mets mes avertissements. Là, sachez que si on innove à cette vitesse-là, ce que je suis capable de faire, puis ce que j'aime beaucoup faire, parce que j'ai du brillant dans mes yeux dans ce temps-là, ça va arriver. Mais mettez quelqu'un de gestion de changement pour être capable d'aider les gens à absorber, que ce soit les gens en technologie ou les utilisateurs finaux. Il faut que ces deux-ci soient accompagnés justement pour que le changement puisse être absorbé, donc qui tire le bénéfice de ce changement-là, puis que l'organisation, justement, améliore, gagne à ce type d'innovation-là pour peu importe l'objectif de la dite innovation.
Ah, puis tu vois, la gestion de changement, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai été étudié en gestion. C'était pour être capable d'avoir cette compréhension-là de c'est quoi cet univers-là, pour avoir des discussions intelligente avec les personnes qui vont s'en occuper, tu sais, vraiment expliquer ce que je vois comme impact potentiel de manière à ce que ces gens-là puissent planifier adéquatement ce qu'ils ont à faire, tu sais, puis de bien cibler les endroits que je vois qu'il y a peut-être des pain points, t'sais. Fait que cet élément-là est primordial. Puis je pense que effectivement, tu sais, de bien le préparer, tu sais, au moins tu arrives puis tu vas casser des œufs, tu vas faire ton omelette, mais au moins il y a une attente au bout de dire ah ben on va avoir un bon lunch.
Ouais, c'est une excellente omelette.
Ouais, exact.
c'est l'objectif aussi, mais c'est sûr que j'ai pas fait le travail en gestion de changement, puis personnellement, j'ai un certain désintérêt face à la gestion du changement. Mais je le dis aussi, mettez quelqu'un qui va être là, parce que moi, c'est pas ma zone, c'est en dehors de ma zone, en dehors de mon intérêt aussi. Parce que présentement, j'ai pas de plaisir là-dedans, fait que je le ferai pas, mais en même temps, je me surprends parce que j'avais pas de plaisir il y a 10 ans, j'ai du plaisir maintenant, fait que ça peut changer peut-être dans 5 ans.
Ouais.
Je vais avoir un intérêt pour ce genre de choses-là. Puis ça, c'est un peu l'axe. Docteur Haas, un peu aussi, c'est un nouveau puzzle. Fait que là, je vais m'intéresser à ce nouveau puzzle-là, puis là, je vais devenir bon dans ce nouveau puzzle-là, jusqu'à temps que je me tanne puis que je change de sujet encore. Fait que je suis un peu dans ces différentes zones-là. J'aime jouer à maîtriser 20% du domaine, puis ensuite change de domaine parce que j'ai plus de plaisir dans ce domaine-là, mais il demeure que ce 20%-là me permet de naviguer, d'innover, parce qu'on revient toujours à l'innovation. Ça s'accumule sur l'ensemble de mes connaissances, ça s'accumule sur tout l'ensemble, donc ce qui fait que j'innove différemment. J'innove mieux, plus vieille, plus j'innove.
T'as innové dans ton innovation, c'est bien.
ça demeure là. C'est ça aussi que les. En tout cas, moi, dans mon cas, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est quand j'apporte ces idées-là, c'est parce que quand je le verbalise, c'est parce que ça fait partie de ma discussion interne de toute façon. Et déjà là, moi, je me l'applique, ma discussion interne. Ça fait aussi partie de ce que je fais. Fait, quand j'innove à l'extérieur, c'est parce que je l'ai fait à l'intérieur aussi. Fait que mon propre chemin est comme ça. Ma discussion interne, elle est très intense. Les gens qui sont très sensibles l'entendent. Ils entendent ça. Je pense que c'est ma sœur qui me l'avait dit parce qu'elle est sensible à ça. Elle dit, là, j'entends quand tu parles dans ta tête. Ça fait du bruit. Fait que les gens qui sont sensibles entendent pas le contenu, mais entendent que j'ai beaucoup de choses internes qui circulent et fait ça. Fait que ça demeure ma façon de faire. Donc, ce que j'applique à l'externe, ça a été appliqué à l'interne avant. Donc, j'innove sur moi-même, je teste des mêmes choses, j'explore des choses de la même façon que je vais le faire face au travail, face à ce genre de choses-là. Ce qui est magnifique en même temps, quand j'ai la chance de le faire au travail, c'est j'utilise ce que je fais pour moi, je le partage avec d'autres choses, mais dans un domaine d'un champ de compétences ou de connaissances qui est spécifique après.
Et puis, c'est intéressant ce que tu disais, ton parcours je vois ça comme un puzzle un peu. C'est un peu comme ça aussi, je me sens à bien des égards. Puis, c'est un des enjeux que j'ai, c'est que j'ai été longtemps devant le puzzle sécurité. Là, j'en ai fait plus le tour qu'autrement. T'sais. Puis là, en ce moment, je suis plus en mode, OK, c'est sûr que je vais toujours être identifié comme le gars qui fait de la sécurité. Je m'en sortirai pas. Mais oui, ça demeure un intérêt, mais maintenant, mes énergies sont beaucoup plus ailleurs. Elles sont beaucoup plus dans d'autres domaines, beaucoup plus en management, par exemple. Où là, je vais aller chercher des nouvelles sources d'informations, des nouvelles connaissances qui vont m'appuyer dans les activités de sécurité nécessairement, tu sais, parce que là, j'agis beaucoup plus au niveau stratégique. Tu sais, mon objectif, c'est d'ailleurs ça. Mais je suis moins maintenant, tu sais, dans les dernières innovations de sécurité, j'y suis beaucoup moins. Là. Donc, je suis beaucoup moins un spécialiste, beaucoup plus avec le temps, en train de devenir un généraliste. Disons, en techno, puis en transformation numérique, etc. Avec une veine sécurité, oui, je comprends les grands principes, mais je suis moins dedans parce que j'explore autour, là, finalement.
Ouais, ben je suis dans le même parcours. Puis, de toute façon, moi aussi, je suis tagué sécurité, là, puis ça, je serais probablement jamais capable de m'en sortir de celle-là. Celle-là, le tatou est assez bien visible et tout le monde est comme ça, mais réellement, je fais plus vraiment de travail qu'on pourrait qualifier pure sécurité comme les gens s'imaginent. Là. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça devient un peu embarrassant quand je me fais poser des questions sur des éléments de dernière technologie parce que je ne suis plus tout à fait dans la dernière technologie. Mais en même temps, comme les concepts demeurent toujours les mêmes, c'est là aussi l'autre aspect. Puis une fois que j'ai maîtrisé les concepts d'un domaine, je commence à m'y désintéresser pour le creuser. En cyber, ça fait longtemps que je maîtrise les concepts. Fait que c'est juste de reprendre ça puis réadapter. Fait que quand on parle de technologie, ben oui, mais même temps en cyber, je me plains de ça. Ça doit faire 20 ans qu'il n'y a pas de réelle innovation. Mais vraiment zéro innovation tangible. Là. On a fait juste travailler sur des concepts qui n'ont pas changé. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine innovation parce que ça va me jeter à terre. Mais pour l'instant, je remixe les mêmes affaires de firewall, antivirus et journaux. Puis on est toujours sensiblement dans le même univers. C'est juste la façon qu'on a évolué. Le cloud, c'est la même affaire. Fait que en ce sens, oui et non. Fait que, mais en même temps, puis c'est ça qui est très drôle. Puis sans être en management, comme le chemin que tu prends, comme je ne fais plus vraiment de la cyber pure et dure, j'en fais encore parce que les choses font que les contrats amènent à ces circonstances-là. Mais il reste que le plus clair de mon travail, c'est d'être avec des humains. Et non avec des machines, au sens ça. Fait que je suis plus dans, j'écris des notes, je fais de l'analyse, je fais des discussions, j'amène l'innovation, c'est plus humain que technologique. J'amène plus dans la discussion que le tangible, genre on est des scientifiques à dessiner des équations de fous sur le tableau. Non, je suis plus d'amener des humains à faire des équations et des guider à faire les bonnes équations, à la bonne innovation, à la, aux bonnes choses. Fait que c'est, en ça, ça a évolué. Puis je suis en train, mes intérêts sont rendus ailleurs. Fait que là, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses que la cyber. Parce qu'on a beaucoup de limites en, en cyber. Puis c'est, je trouve ça un peu plate qu'on soit comme ça. Puis genre, là, on enregistre peu de temps après le problème de CrowdStrike, notamment, là, dans ce cas-ci, il y en a eu d'autres. Et c'est là, c'est un, ce moment où là, on voit la limite des gens en cyber de capable de comprendre comment un grand système fonctionne, comment les humains dans ce grand système-là s'interagissent, ces éléments-là. Et le fait, ben, là, le problème qui est rencontré, c'est une chose. C'est malheureux pour la compagnie. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce que je dois déchirer ma chemise? Non. Est-ce que... Fait que je suis dans un contexte de cette nature-là. Puis généralement, c'est ça, j'ai des clients qui vont, si on parle de cas de CrowdStrike, je n'ai pas besoin d'avoir la connaissance fine de ce qui s'est passé avec CrowdStrike. Je lis deux, trois articles, je comprends le fait qu'il y a eu une erreur de manipulation quelque part ou il y a quelque chose qui a raté dans le système, puis on se retrouve avec le problème dans lequel on est là. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce qu'on va faire d'autres choses? Mais puis, de toute façon, moi, mon dada là-dessus, c'est plus le monoculture que l'erreur de CrowdStrike spécifiquement.
Ouais, ouais.
Ma première question, c'est plus à ce niveau-là. Fait que je suis même pas dans la même zone que les autres. Ah, c'est ça. Non. Moi, je regarde. Monoculture, c'est un problème. C'est les gens qui ont connu VMware dernièrement, ben, c'est ça le problème de la monoculture. C'est, on s'en va, on est dépendant, fait que ça s'amène dans ces zones-là. Fait que des réflexions autres, mais qui ne sont pas technologiques. Si on parle de monoculture, on va parler de l'agriculture, on va parler de biologie, on va parler d'éléments comme ça. Fait que c'est dans ces univers-là que j'aime beaucoup, beaucoup regarder. Ça, puis même pendant la COVID, si on parle de choses connexes, j'ai beaucoup lu sur le sujet, puis pas parce que je voulais des affaires de conspi, mais parce que je voulais comprendre comment le virus se propageait. Et donc, incidemment, mes façons de me protéger sont conséquentes par rapport à la façon. Mais toutes ces connaissances-là que j'ai acquises sur... Moi, je les réutilise, j'ai déjà réutilisé quand on aborde la propagation en cyber, bien c'est ça, ça vient tout de cette connaissance-là. En immuno, puis tous ces éléments-là, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut améliorer les systèmes en cyber avec des concepts de médecine, notamment.
Oui, ça, c'est drôle parce que pendant tu mentionnes ça, pendant la pandémie, au début de la pandémie, j'étais donc dans une organisation, puis une organisation de sécurité commissionnaire, pas les nommer, là, physique et on faisait aussi de la cyber. Mais il y avait tout l'enjeu de comment on allait gérer les agents sur le terrain. Tu sais, puis c'est compliqué parce que tu as des gens qui peuvent tomber malades. Puis comment qu'on les appuie le plus possible, tu sais, alors qu'on a besoin d'eux autres là, pour tu sais, les hôpitaux, etc. Tu sais. Fait que, dans le fond, on parlait d'innovation tantôt. Tu sais, moi, tu sais, Ben, ramasse l'information, puis tu sais, essaye de nous expliquer c'est quoi les meilleures pratiques en place. Tu sais. Fait que ça a été quelques mois hyper intenses où j'ai lu un peu comme toi là, des affaires que je ne suis pas nécessairement habitué de lire, que je savais que je comprenais peut-être 10 à 15, 25 de l'article. Puis que là, je prenais l'article, je faisais comme OK, bon, qu'est-ce que je peux en ressortir? Pis je le croise avec d'autres affaires, puis là, éventuellement, tu finis par te faire une idée d'à peu près de comment ça devrait marcher. Là, tu arrives, voici ce qui semble être les bonnes pratiques pour tel élément. Fait que, c'est encore une fois, ça a comme. Faut que tu aies le caractère, la tête pour vouloir faire ça, puis faut que tu aies aussi l'organisation qui te laisse la place pour le faire aussi. T'sais, dans ce cas-ci, ça a été hyper utile.
C'était une demande en plus, puis ce qui était intéressant ou peut-être plus difficile pour certains. L'état de l'art de la connaissance du COVID a évolué beaucoup aussi. Et ça a été ici. Est-ce que les gens qui ne sont pas curieux ont trouvé difficile parce que l'état de l'art au début n'était pas celui après un an, n'était pas après deux ans. Donc, il a fallu amener la connaissance, changer la connaissance. Et donc, changer les pratiques en conséquence pour se protéger avec les nouvelles connaissances. Fait qu'il y a des choses comme laver son épicerie, c'était pas super utile. Mm-hmm. Fait que, mais en même temps, quand on ne le sait pas, on ne prend pas de chance, fait qu'on avance comme ça. Puis d'avancer avec ces choses-là, puis d'innover. Puis oui, c'est ce genre de travaux-là que j'aime beaucoup aussi, d'arriver avec des éléments qui me sortent de ma zone de confort énormément. Puis depuis, c'est pour ça que j'ai lu autant sur la COVID, comment ça s'est fait. J'ai lu des papiers scientifiques qui canalisaient les épidémiologies, tous les éléments comme ça, puis pourquoi il y a eu moins de grippe, toutes ces analyses-là, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer. Puis après ça, ben toutes ces connaissances-là, puis ça se perd pas après. Que ça vient dans le grand bassin de mes connaissances, puis enrichir, puis de pouvoir me permettre des choses, mais c'est des choses qui aident l'innovation. Puis ça n'a pas l'air de... Tu sais, puis en même temps, ce genre d'analyse-là, pour la plupart des gens, ça n'a pas l'air de l'innovation, mais pour les organisations, c'est une forme d'innovation d'aborder ces sujets-là. Puis l'organisation, dans le cas dans lequel tu étais, ben, t'a permis justement d'aller aborder ça. Là. C'est vraiment ouais. chose de réussir. Puis avec un objectif business, puis un objectif pour protéger les gens dans le business, puis une très belle cible.
Ouais, puis... C'est d'un point de vue personnel maintenant, tu sais, je réfléchis plus, comme tu dis, de la même façon, tu sais, nécessairement. Je sais que ça m'a apporté un bassin de connaissances sur lequel, tu sais, je peux quand même me fier, tout en sachant, effectivement. Là, ça, c'est un élément qui est pas important, mais tu sais, il faut tout le temps, quand tu lis quelque chose, tu dis, ben, c'est l'état de la connaissance au temps X. La connaissance avance tout le temps, puis la connaissance est tout le temps en retard par rapport à la vérité. Fait que la vérité et la connaissance, c'est pas la même chose. Fait que nécessairement, tout en sachant ça, fait que là, OK, ben voici ce que l'état de la connaissance au temps X, mais l'état de la vérité est probablement autre chose. C'est ce qui me drive au final. J'aime ça savoir que il y a quoi de plus loin que tu peux aller chercher.
Oui, c'est ça. Puis mes premières lectures, là, j'étais plus c'était plus ardu. Tu disais du cap 20-15%. Ouais. De ce qui est. Puis plus j'avançais dans mes lectures, plus le niveau que je captais était grand. Puis plus j'étais capable de déceler ce qui ne faisait pas de sens non plus, parce qu'à cette époque-là, il y a eu énormément de contenu qui a été véhiculé. Moi, ça m'avait énormément agacé parce que je contre-vérifie tout, parce que tu n'étais jamais sûr que l'information qui était donnée était bonne. C'est sûr, j'ai des bases scientifiques, ce qui me permet de déceler peut-être un peu plus rapidement que la plupart des gens quand quelque chose qui est fichu, qui ne marche pas bien dans le contenu. Puis même ça, des fois, ça semble fichu, mais la réalité, c'est ça fonctionne parce qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas entièrement qui permettait justement certains éléments par rapport à ça. Mais ça m'a aidé. Donc, puis c'est comme ça dans tous les domaines. C'est au début, l'image que j'aime beaucoup utiliser pour ça, c'est celle des 13 guerriers où, au début du film, il accompagne des personnes d'une autre langue, il comprend rien. Puis la façon qu'ils ont montré qu'ils captaient, bien, tranquillement, ils captent des mots. Et à la fin, bien, il est capable de converser entièrement dans la langue des 13 guerriers. Donc, à ce moment-là, de discuter comme ça, fait que cet élément-là, où quand tu commences, bien, c'est comme apprendre une nouvelle langue ou peu importe. Au début, c'est difficile, c'est douloureux, c'est pas le fun, ça demande beaucoup d'humilité. Puis plus tu progresses, plus tu deviens fluent, tu comprends les mots, tu comprends les termes, tu comprends pourquoi, puis ça t'amène à ce genre de choses-là. Mais qui amène aussi, puis on revient à la boucle d'innovation, mais on en parlait, tu as fait 4 champs de sciences, mais tu as pris les vocabulaires dans le 4, tu es capable de mixer maintenant les 4, puis d'arriver à quelque chose qui fait état ou qui est adapté à chacune des choses, d'être capable de choisir le bon outil. Faire le bon travail. Puis ça aussi, c'est pas facile, puis ça c'est limitrophe à l'innovation, mais quand même d'être capable de choisir le bon outil, ou le bon filtre, la bonne matrice d'analyse, ou peu importe ce qui est nécessaire. Là. Puis c'est pas tout le monde, puis tu parlais en académique, qui vont utiliser un spécifique, mais la réalité, c'est beaucoup plus souple que ça. Si on prend un exemple dans lequel je suis présentement, ben c'est là je fais beaucoup plus d'analyse de risque ces temps-ci. Ben, j'utilise 3 méthodologies selon le contexte, selon le besoin. Puis même des fois, je mélange les 3 pour arriver à une méthode plus rapide parce que j'ai besoin de tirer le meilleur des 3 pour répondre à un besoin qui est là. Donc, je suis capable d'adapter facilement le contenu. Mais c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Là. Pas que j'ai inventé une nouvelle méthode d'analyse de risque. Là. Détrompez-vous, je ne suis pas là dans cette zone-là. Mais des fois, il y a des besoins de créer des analyses de risque en des temps records. Donc, dans ces conditions-là, j'y vais selon des formalistes, puis là, je crunch un peu, je tords un peu les formalistes, puis je les mélange ensemble pour avoir un résultat dit intéressant.
Ou si tu arrives à un point, là, à un moment donné, en termes de cueillette de connaissances, où tu es comme un point tournant, là, c'est-à-dire que Tu sais que tu en connais suffisamment pour être capable de continuer à puiser dans le sujet. Puis tu comprends suffisamment pour dire, OK, regarde, si je veux pousser, je vais continuer à pousser. Et c'est un peu l'effet de Dunning-Kruger, là, tu sais. C'est-à-dire que tu es suffisamment spécialiste pour comprendre qu'il y a du stock en masse. Tu pourrais continuer à le faire toute ta vie. T'sais. Puis que au final, tu connais pas grand-chose. Mais tu vois, moi, c'est là souvent que je commence à dire, bon, ben là, je vais aller explorer autre chose. Puis je peux y retourner. J'en connais suffisamment pour dire, regarde, je suis capable d'y retourner. Puis si j'ai vraiment de l'intérêt, je pourrais y retourner. Puis tu sais, le fait que je vais aller visiter autre chose, peut-être que je vais trouver que finalement le gazon était plus intéressant où j'étais. Fait que je vais y retourner. T'sais. Fait que c'est cette courbe-là, là, tu sais, où quand tu arrives, puis tu as suffisamment de compréhension du vocabulaire, compréhension du domaine, etc. C'est là aussi. Souvent où je vais décrocher et je ne deviens pas un spécialiste.
Ouais, ben je suis dans la même zone que toi, puis j'ai une forme de désintérêt. Je vais capter, ça va être très intense, en 2-3 mois très intense dans un vertical spécifique. Puis je vais m'y tanner, puis moi je dis je capte 20% du contenu du domaine. Je vais arrêter là de façon volontaire. Après ça, si j'ai des besoins d'aller là-dedans, je vais être capable de descendre. Sauf que quand je vais descendre dedans, je vais descendre beaucoup plus vite que les autres qui n'ont pas fait ce chemin-là avant. Puis je vais être capable ensuite de reprendre les différents éléments, là, puis remixer selon les besoins, ramener parce que j'ai suffisamment. Puis là, je suis capable d'aller chercher ce que j'ai de besoin dans ce domaine-là. Donc, j'ai comme une carte du domaine sans être spécialiste du domaine. Donc, c'est pas moi qui vais être le guide du domaine, mais je vais être capable de avec une carte, de me débrouiller dans le domaine en question. Et qu'être capable de maîtriser, parce que je maîtrise le vocabulaire, je maîtrise les concepts, je maîtrise des choses. Puis après, ben, c'est juste de creuser, d'aller plus loin selon les besoins qui peuvent émerger. Là. Mais souvent, c'est mon travail va m'amener dans certaines zones. D'autres fois, c'est un point de vue personnel qui va m'amener dans d'autres zones où je vais explorer des sujets là, bref, jusqu'à temps que j'atteigne une saturation du 20%. Je passe au suivant. Pas parce que le sujet n'est pas intéressant, mais parce que ma capacité d'attention est limitée. faut se connaître aussi.
Ouais.
Et d'utiliser aussi ça. Puis ça, c'est un peu un défi quand on est plus jeune de reconnaître le fait que bon, mon intérêt est là. Puis je vais aller ailleurs. Puis en même temps, l'autre côté, puis c'est un peu ce que tu disais, c'est tu peux passer une vie au complet dans un domaine, puis d'être un spécialiste, ça, puis de ne pas le connaître au complet aussi. C'est un peu la paix avec moi-même que j'ai faite à un moment donné parce que tu sais, c'est la connaissance pour moi, c'est all you can eat. Là. C'est, j'essaie de me bouffer tout ce que je suis capable. Puis maintenant, on se rend compte qu'on a une limite. La limite du in est quand même assez importante. On n'est pas capable de pousser plus que tant de contenu dans notre tête comme ça. Donc, c'est un peu d'abandonner, de vouloir tout absorber d'un domaine, mais d'absorber jusqu'à un certain seuil. Puis de dire, ben, OK, après ça, ben, j'abandonne. J'irai pas à moins d'avoir un intérêt spécifique ou un travail à faire, des choses là-dedans, j'irai jamais plus loin. Et d'abandonner, c'est un peu, il y a un peu de travail là-dessus que j'ai dû faire sur moi, là, un peu de tristesse d'abandonner toute cette connaissance-là, toutes ces choses-là, d'aller explorer. Que finalement, ben, je suis pas tout à fait comme ça, je me désintéresse, même, puis d'être en paix avec le fait que j'arrête de creuser un domaine. Et je fais juste le suivre en périphérie, un peu, voir comment il se passe en lisant 2-3 papiers une fois de temps en temps pour maintenir quand même un peu à jour mes connaissances, mais sans aller plus loin.
Accepter que, tu sais, c'est infini.
C'est effectivement infini. On va clore là-dessus, ça fait une heure qu'on en parle. comme toujours, il y a toujours beaucoup de choses qui en ressortent. Merci énormément de ce partage-là. C'est toujours très cher parce que ça nous permet justement d'explorer des domaines qui sont un peu plus personnels. Puis je pense que comme Vincent, la dernière fois tu disais, c'est aussi un peu plus difficile parce qu'on a quand même, on expose des choses qui sont personnelles à travers tout ça. Un peu qui on est, mais c'est vraiment très chouette ces partages-là. Moi, j'en sors énormément grandi. Puis je pense aussi que les gens apprécier énormément ce type de partage.
Si. We're gonna.